Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Bonjour et bienvenue sur Langue de Prune, l'émission de Prune qui vous parle des langues, de leur accent, leur évolution, leur influence et leur histoire. Je suis Guillaume, l'animateur de l'émission de ce mois-ci et je suis accompagné aujourd'hui d'Axel.
Bonjour.
D'Azilise.
Bonjour.
Et de notre très chère invitée Sophie.
Bonjour.
Après notre première émission sur le langage inclusif, nous avons décidé de continuer sur cette lancée et de parler des langues régionales. Breton, gallo, alsacien, basque, toutes ces langues régionales qui sont autres que la langue française. Considérées comme langue du peuple, non légitime, inférieure au français qui est considéré quant à elle comme la langue de la République, nous allons parler des langues régionales d'hier et aujourd'hui, en passant de la Bretagne à la Réunion. Elles sont la trace de notre histoire, un lien avec le passé et la culture que nous devons réussir à ne pas perdre. Nous allons tout d'abord aborder leur histoire à partir du Moyen-Âge, puis nous plongerons dans les langues de notre chère Bretagne et leurs petits secrets, accompagnés de l'interview de Sophie. Et enfin, ce que sont les langues régionales aujourd'hui. Tout ceci sera entrecoupé de nos trois chroniques, d'ici d'ailleurs, sur un sujet sans doute polémique, l'étymologie en folie sur le nom d'une commune de la Loire-Atlantique et de « À qui la faute ?» sur ces fautes de français qui ne sont en fait pas françaises. Commençons donc avec Axel et la belle histoire de nos langues régionales.
Alors, pour s'intéresser aux langues régionales en France métropolitaine, il faut déjà parler, oui, de leur histoire, avant que dans l'émission on aille un peu plus en détail. Pour ce faire, nous pouvons remonter, en fait, au début du Moyen-Âge, vers la chute de l'Empire romain. Bien que la France, en fait, n'apparaît dans les consciences que de nombreux siècles plus tard. Après la chute de l'Empire romain, dans les anciens territoires impériaux, plus précisément dans la majorité de l'Europe, dont la Gaule qui nous concerne, on observe une multiplication des langues, des dialectes. Ça ne signifie pas que de nombreuses formes d'expression n'existaient pas auparavant. Il est bien nécessaire d'être conscient que l'une des nombreuses raisons de la chute de l'Empire romain d'Occident, ce sont les fortes migrations, dites « barbares », qui se firent en masse pendant le 5e siècle. En Gaule particulièrement, donc les Francs, qui sont arrivés en 400-440 dans le nord et qui forcent d'importants déplacements de population. C'est cette arrivée d'un peuple germanique, avec son propre langage, qui a mécaniquement créé des mélanges linguistiques au fil des siècles, qui a créé de nouveaux dialectes, de nouveaux langages, renforcés par la vie de l'époque rurale très fragmentée. Les temps de voyage étaient beaucoup plus longs à l'époque, donc les distances n'avaient pas la même réalité qu'elles ont aujourd'hui. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes sont quand même polyglottes. Même un paysan, il se déplace beaucoup. Il ne reste pas enfermé chez lui. Il est donc important de réaliser que jusqu'à la Révolution, les langues régionales n'étaient pas. C'était vraiment des langues à part entière. Le simple fait de se déplacer d'une commune à l'autre à l'époque, ça revenait presque à changer de pays. L'équivalent, oui, de changer de pays pour nous aujourd'hui. Parce qu'on est considéré comme un étranger, on ne parle pas la langue. Il y a des différences culturelles qui sont marquées. Et du coup, des langues comme le breton, le basque, le catalan, le corse morcellent le paysage linguistique de la France. Le français n'existe d'ailleurs pas encore de manière très fugace et parlé que par une minorité d'élite. Le français, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, il est vraiment mis en avant pour la première fois par François Ier en 1539 avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est le texte législatif d'ailleurs le plus ancien qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et cette ordonnance impose le français dans tous les textes administratifs et juridiques à la place du latin. Attention, le but c'est principalement de normaliser les textes administratifs. C'est une volonté d'accroître la centralisation du pouvoir dans le royaume. C'est pas d'imposer le français dans la vie courante. La majorité des sujets du roi, ils continuent d'utiliser leur langue propre chez eux, dans leur vie quotidienne. ça reste quand même une première étape importante pour le français comme langue principale connue dans tout le royaume de France. Sa domination, faible mais croissante, avant la Révolution, s'explique également par le rayonnement de plus en plus important de Paris, en raison de sa puissance économique, politique, comme on en a parlé, et aussi de sa démographie grandissante. La création de l'Académie française, c'est une autre étape dans l'affirmation du français. On va pas vous raconter l'histoire de l'Académie française à chaque émission, ça ferait beaucoup de répétitions, mais l'Académie, donc, elle place cette langue au cœur des cercles des élites intellectuelles parisiennes. Son lien entre la langue française et le pouvoir en place, il est renforcé. N'oubliez pas, comme on en a parlé le mois dernier, son rôle, c'est de créer un dictionnaire d'un bon français. Ça va jusqu'à la réécriture de certains classiques de l'époque pour qu'ils y soient conformes. En 1789 arrive donc la Révolution, avec tous les bouleversements idéologiques majeurs que vous connaissez. Et un de ces bouleversements, vous le savez, vous vous en doutez, a été linguistique. L'intérêt n'est pas des moindres. En fait, il s'agit de faire adhérer un maximum de personnes aux idéaux révolutionnaires. Pour ça, il faut que tout le monde puisse comprendre les textes, les lois, les décrets, toutes les autres décisions de l'Assemblée ou des gouvernements locaux. Et au départ, face à l'enthousiasme général, la décision est prise en 1790 de traduire tous les textes dans toutes les langues régionales. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, la réalité à laquelle fait face l'Assemblée nationale assez vite, c'est un manque de traducteurs locaux. Et du coup, c'est quasiment inapplicable comme idée. C'est pour ça qu'après un rapport de Talleyrand le 10 septembre 1791, qui prône l'instruction publique généralisée, on fait un constat, tout traduire ne suffit pas. Il faut que le français sorte de son carcan royal, devienne la langue de tous. L'idée derrière cette décision, elle est simple. Pour être égal, il faut parler la même langue. Ça ne signifie pas qu'il est interdit de parler d'autres langues, et les langues régionales sont donc tout à fait tolérées. C'est juste que le français est vu comme l'occasion d'avoir une langue commune, qui rassemble le peuple français dans son ensemble. Et c'est la première fois qu'on associe la nation et la langue. Après les chutes de Napoléon, la monarchie revient en France. C'est la Restauration. Malgré un mouvement réactionnaire, il faut faire attention, les idéaux révolutionnaires ne peuvent pas être mis de côté. Le 19e siècle est perçu aujourd'hui comme le siècle des révolutions en France, révolution en 1830, puis 1848, et la période 1870-1871, qui est aussi une période de troubles révolutionnaires avec la Commune de Paris, mais aussi des communes sur tout le territoire français. Ainsi, les différents pouvoirs monarchiques, impériaux et républicains sont dans l'impossibilité de faire table rase de la révolution, malgré les efforts de certains. Ça vaut pour la langue. Le français est de plus en plus parlé, devient la langue dominante sur le territoire, avec l'exception de la Bretagne, qui reste imperméable, je suis plutôt fière de ma blague, et l'arrivée, du coup aussi, après, de la Troisième République en 1870, c'est là que ça va entièrement changer l'approche des langues régionales. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler d'une répression des langues régionales. Le régime est très dur avec celle-ci, avec l'exemple le plus connu, c'est celui des écoles. Jules Ferry met en place beaucoup de lois, des réformes autour des écoles. La principale, c'est la plus connue, celle du 28 mars 1882, qui rend l'école laïque obligatoire. Et cette loi-là présente même en fait un programme qui comprend la langue et les éléments de la littérature française. Il est interdit d'enseigner ou même de parler une langue régionale. L'école publique doit être française, rien d'autre. Les écoles qui n'enseignent pas uniquement le langue française sont réprimées. On commence aussi à parler de patois, pour parler des langues régionales de manière péjorative. C'est une connotation qu'on retrouve toujours aujourd'hui. En touchant ainsi directement la jeunesse, du coup le processus s'accélère et les langues reculent. Je parlais un peu plus tôt de la Bretagne, qui reste assez fermée face aux Français. Et dans ces territoires résistants, la répression est très ferme. Pour vous donner un exemple qui sort un peu du cadre des écoles, les maires bretons, qui ne parlaient pas français, se font démettre de leurs fonctions par le pouvoir central et donc remplacés par quelqu'un qui parle français. Ce recul des langues parlées par les minorités est à remettre dans un contexte mondial. Il y a un linguiste américain, Michael Cross, qui tirait en 1991 la sonnette d'alarme, estimait que 90% des langues parlées étaient menacées d'extinction dans le siècle suivant. Les efforts qu'on peut voir aujourd'hui, dont on va vous parler après dans l'émission, font notamment suite à ces avertissements lancés par des linguistes. son chiffre depuis de 90% a été revu à la baisse, parce que l'extinction des langues, en fait, n'est pas quelque chose qui se passe de manière uniforme tout autour de la planète. Mais je trouve ça important aussi de remettre dans ce contexte mondial, en conclusion, l'histoire des langues régionales françaises.
Merci Axel pour tout ce savoir. Et nous allons écouter maintenant un poème devenu chanson qui devient le chant de tout un peuple et de sa culture basque. Voici Egoac. Vous êtes bien sur Prune, en train d'écouter Langue de Prune sur le sujet des langues régionales. Voici notre première chronique d'ici et d'ailleurs, tenue par Axel encore, et qui va nous parler d'un sujet régional polémique.
D'ici et d'ailleurs.
Le mot que j'ai choisi aujourd'hui, donc c'est à l'inverse du mot du mois dernier, en sorte. J'avais énuméré beaucoup de noms pour désigner une seule chose. Et cette fois-ci, c'est juste deux appellations. Comme l'a dit Guillaume, assez polémique, qui se font la guerre. Les débats sont houleux dès qu'on en parle. Vous avez peut-être deviné. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chocolatine et du pain au chocolat. Je crois qu'on utilise ici tous autour de la table pain au chocolat. Ce qui n'est pas vraiment surprenant en soi. On est tous originaires du coin. On peut se le dire. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le terme pain au chocolat. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire une explication sur l'étymologie, l'origine du terme, comment c'est venu l'idée d'appeler ça pain au chocolat. Par contre, petite information, l'utilisation la plus ancienne que j'ai pu trouver, ça date de 1867. C'est dans un livre suisse écrit par Madame Lina Ritz, un livre qui se nomme, attention, « La bonne cuisinière bourgeoise » ou « Instructions pour préparer de la meilleure manière les mets usités, soit dans la vie ordinaire, soit pour les fêtes ». C'est un titre un peu long, mais attention, c'est un livre qui a été réédité 6 fois, donc c'était vraiment un best-seller.
Oui.
Le mot chocolatine, Donc c'est assez connu, c'est surtout utilisé dans le sud-ouest, en Aquitaine, dans les Midi-Pyrénées, le sud du Limousin. C'est le terme le plus utilisé aussi de l'autre côté de l'Atlantique chez les Québécois. L'étymologie du mot, alors il y en a plusieurs, mais la plus probable, vu la présence géographique là où c'est le plus utilisé, ce serait donc le suffixe « in », qui est un diminutif affectif en gascon, qui est accolé au mot « chocolat ». Le gascon, c'est un dialecte de l'occitan qui est parlé en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc vraiment, cette région-là. Par contre, c'est assez compliqué de trouver quand est-ce que exactement le terme a commencé à être utilisé pour désigner la viennoiserie en question, parce que c'est un mot qui a été utilisé pour désigner plein de choses un peu en rapport avec le chocolat. Par exemple, des bonbons au chocolat, une sorte de boisson au chocolat, même une forme de médicament qui était donné aux enfants et donc enrobé de chocolat dans les années 1910-1920. Donc avant d'avoir le sens qu'on connaît aujourd'hui. Le mot est d'ailleurs entré dans les dictionnaires que vraiment récemment, 2007 pour le petit Robert, 2011 pour le Larousse. Je dis récemment, mais je me rends compte que ça fait 10 ans. Donc voilà, je pense vous avoir donné pas mal d'éléments. Pour la prochaine fois où vous êtes en terrasse et quelqu'un essaye de lancer la polémique, vous aurez des petites choses à placer pour vous faire bien voir. Mais il faut quand même que je mentionne, pour clore le débat, réconcilier aussi nos auditorices qui sont pro-pain chocolat, ceux et celles qui sont pro-chocolatine, que pendant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait un troisième nom, qui est surtout utilisé dans l'Est, en Savoie, dans le Jura, et un troisième nom que je pense être le vrai ennemi. Attention, préparez-vous, croissant au chocolat.
Mon Dieu.
Langue de prune.
Merci Axel. Comme quoi, rejoignons nos forces et battons-nous contre notre véritable ennemi, le croissant au chocolat. Enfin bon, suite à cette chronique, nous allons maintenant parler des langues bretonnes avec Azilise.
Rebonjour. Donc oui, je vais vous parler un petit peu des langues régionales en Bretagne. Vous allez me dire, mais comment ça, les langues régionales en Bretagne, on parle breton, c'est tout. Eh bien, on parle breton, mais on parle aussi gallo. Ce sont deux langues qui sont très différentes, mais qui sont très liées. Et on va découvrir ensemble comment elles fonctionnent, à quoi elles ressemblent, et comment elles cohabitent ensemble et avec le français. Donc d'abord, une petite description historique de ces langues. Le breton, c'est une langue celtique, à l'origine dans la province romaine de Britannia, c'est l'ouest de la Grande-Bretagne. Il y avait une langue qui était parlée, qui était le britonique. Et puis au 5e siècle, au moment du déclin de l'Empire romain d'Occident, les personnes qui habitaient cette région ont migré vers l'Armorique. L'Armorique, c'est la région de l'ouest de la France. C'est un peu plus grand que la Bretagne actuelle. Et donc en migrant, ils ont apporté leur culture, leur langue, et se sont mélangés avec la population gallo-romaine qui était déjà. Et au fil du temps, ce britonique s'est modifié et a fini par devenir ce qu'on appelle maintenant le breton. Pour le gallo, l'autre langue de la Bretagne, c'est une histoire un peu différente. C'est une langue romane qui s'est développée à partir du latin vulgaire. Donc le latin vulgaire, c'est le latin qui était vraiment parlé dans la vraie vie et pas le latin de Cicéron ou de Virgile. Et ce latin vulgaire, il a donné plusieurs langues. Dans le nord de la France, on les appelle les langues d'oïl. Donc en Picardie, c'est le picard, et en Bretagne, c'est le gallo. Et ce gallo, il est parlé plutôt à l'est de la Bretagne, dans ce qu'on appelle la Haute-Bretagne. En fait, il y a une frontière entre la Basse-Bretagne à l'ouest et la Haute-Bretagne à l'est. Et au fil du temps, cette frontière s'est déplacée de plus en plus vers l'ouest. À une époque, la Loire-Atlantique, ça faisait partie de la Basse-Bretagne, à peu près au Moyen-Âge. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. On a en fait en Basse-Bretagne le Finistère, les Côtes d'Armor, enfin l'ouest des Côtes d'Armor et l'ouest du Morbihan. Et en Haute-Bretagne, on a l'est du Finistère, non, l'est des Côtes d'Armor, l'est du Morbihan, l'île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. En Bretagne, donc, ça me fait plaisir de le dire. Et cette frontière, c'est une frontière linguistique. Donc à l'ouest, on parle breton, à l'est, gallo. Et ces deux langues, même si elles sont parlées juste à côté, en fait, dans la même région, elles sont très différentes, puisque le breton, c'est une langue celtique. On la reconnaît souvent parce qu'elle est très nasale. Elle a beaucoup de voyelles nasales. C'est des voyelles qu'on a aussi pour certaines en français. Par exemple, le on, c'est un peu comme un O qu'on dirait en se bouchant le nez, ou le an, un peu comme un A qu'on dirait en se bouchant le nez. Ben, en breton, il va y avoir plein de voyelles nasales comme ça. On peut le faire avec le I, avec le U. Vous pouvez essayer si vous voulez. Le gallo, lui, puisque c'est une langue d'oïl, il va beaucoup ressembler au français. Donc, quand on entend du gallo, on peut comprendre à peu près ce que ça veut dire. Il y a quand même quelques petites choses qui marquent l'oreille par rapport au français. C'est qu'on va entendre déjà beaucoup de passés simples, que nous, on n'entend pas trop à l'oral en français. Et ça va être que des passés simples en « i ». Il y a aussi les questions avec « ti ». Je pense que vous avez déjà entendu « comment ça va-ti ?» Ben, c'est du gallo. On entend aussi beaucoup de « e ». Et beaucoup les diphtongues « au » et « aïe ». Comme dans « ah, fais pas chao, je vais rentrer chez Maï ». Donc moi, je ne parle pas très bien gallo, mais je vais vous faire écouter un extrait d'un chant traditionnel en gallo qui s'appelle « Les vieux de la vieille ».
Encore sur la mer, il m'envoyait, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Encore sur la mer, il m'envoyait, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Voilà, donc on voit que c'est très entraînant. je pense que vous avez à peu près compris ce qui se disait. Ces deux langues, elles ont quand même comme point commun d'être donc des langues régionales et dominées par le français. Mais entre elles, il y a aussi une dissymétrie. Parce que le gallo n'a pas du tout le même statut que le breton. Le gallo, c'est un patois. D'ailleurs, les gens qui le parlent l'appellent généralement le patois. Ils ne disent pas parler gallo, mais parler patois. Et le patois, c'est un peu vu comme mal parler français. Et pas comme une langue à part entière, ce qu'est le breton. Donc le breton, va y avoir plus d'efforts qui sont mis en œuvre pour le sauvegarder. Il y a de plus en plus de personnes qui apprennent le breton. Et c'est justement pour ça que Sophie est venue nous voir aujourd'hui, parce qu'elle a appris le breton une fois grande, une fois adulte, et elle l'utilise au quotidien. Donc bienvenue Sophie.
Merci.
Alors bah déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé d'apprendre le breton ?
Bah alors, pour plusieurs raisons, évidemment. Donc, tout d'abord, je dirais que les langues, j'aime bien ça. J'aime bien apprendre des langues à l'école. J'ai appris d'autres langues en voyageant, enfin, une autre langue en voyageant. Donc, j'aimais bien ça. Et parallèlement à ça, j'ai toujours été touchée, je pense, par la disparition des langues, en fait, des langues minorisées, comme on peut dire. Ça m'a toujours attristée, ça m'a toujours beaucoup touchée. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah là, Sophie, t'es en Bretagne, vas-y, t'as l'occasion d'apprendre le breton et apprends le breton. Et après, aussi, le breton m'attirait aussi en tant que tel, parce que dans ma famille, même si ça n'a jamais parlé breton, il y a toujours eu un lien à la fois culturel avec la musique, mais aussi politique, avec toutes les luttes écologiques, antinucléaires qu'il y a pu avoir en Bretagne. Donc j'avais ce lien déjà avec la Bretagne assez fort. Et ensuite, mon frère avait appris le breton. Moi, je ne voulais pas le faire parce que dans mes amis autour de moi, personne ne parlait breton et je ne voulais pas apprendre une langue juste pour parler avec d'autres locuteurs bretons que j'aurais rencontrés par ce billet-là. Je voulais apprendre une langue pour avoir vraiment un usage social de la langue avec des amis. Des amis avec qui j'ai créé des liens pour ce qu'ils sont et pas pour juste la langue. Et petit à petit, autour de mon entourage, il y a eu plus en plus de gens qui ont fait la formation que j'ai faite et qui ont appris le breton. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, c'est le moment, en fait, t'as des amis qui parlent et il faut y aller, quoi. Et donc, j'ai décidé de faire une formation pour adultes en 9 mois, intensif, à temps plein, donc il y a 2-3 ans.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette formation ? Comment ça se passait ? Est-ce que c'était tous les jours ? Qu'est-ce que vous appreniez ?
Alors, c'est une formation qui est donnée, proposée à Nantes et à Rennes par une association qui s'appelle Skolan Emzao. Il y a d'autres associations en Bretagne qui proposent le même type de formation. Stumdi, Roudour, Merven, je ne cite peut-être pas toutes, mais voilà. Et donc, c'est une formation à temps plein, donc de 9h à 17h, tous les jours. Voilà, il y a une première partie de formation qui est proposée sur 6 mois. Et après, on peut compléter en enchaînant avec 3 mois en plus pour, du coup, une formation au total de 9 mois, si on veut. C'est...
Et du coup, maintenant, je crois savoir que tu utilises le breton dans ton travail ou que tu l'as déjà fait.
Oui, alors suite à ma formation, j'ai été assistante d'éducation animatrice au collège d'Iwan de Saint-Herblain. À mi-temps, donc j'utilisais le breton dans ce cadre-là. Et cette année, je fais une formation en CAP Petite Enfance. Et du coup, je fais une partie de mes stages au sein de la micro-crèche Yuna Selena, qui est une micro-crèche en immersion breton avec les enfants qu'elle accueille.
Et dans quel autre contexte tu utilises le breton avec tes amis déjà? C'est ce que tu me disais?
Oui, alors j'essaye. C'est pas toujours facile de parler breton quand on a commencé une relation en français avec quelqu'un. Ça, c'est le drame un peu, mais on essaye de plus en plus. Bah, par exemple, avec mon frère maintenant, quand on est tous les deux, j'arrive à parler breton avec lui. Et avec d'autres amis aussi, on essaye de plus en plus de parler breton ensemble. Ensuite, j'arrive à utiliser cette langue lors de divers événements qui sont organisés par le milieu associatif bretonnant, entre guillemets. Donc ça peut être mensuellement, il y a des rencontres dans un bar nantais un soir et on se retrouve pour parler breton. Ça peut être un concert organisé en langue bretonne, une pièce de théâtre. Voilà, ça peut être des choses diverses et variées, des repas au restaurant, diverses sorties.
Et tu disais que tu as toujours été touchée par la disparition des langues minorisées. Est-ce que tu penses que c'est ce qui va arriver aux Bretons?
J'espère que non, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que même s'il se passe de plus en plus de choses, ça reste encore trop peu, malheureusement. Et ce qui manque aussi en breton, c'est que donc il y a les écoles d'Iwan, il y a des formations, etc. Mais il nous manque des espaces de sociabilité où on parle breton en dehors du lieu de travail et en dehors des écoles. Ça, c'est un peu le drame. Il y en a qui se créent de plus en plus. Mais il faut pouvoir trouver aussi des espaces où on utilise le breton sans forcément parler du breton. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Donc, il y a des choses qui se font. Hein. J'avais envie de citer Splend, un média qui a été créé récemment, indépendant en Bretagne, qui est en français et en breton, et qui traite notamment de tout ce qui est de l'écologie, notamment en Bretagne. Donc, des journalistes qui ont traité, par exemple, du sujet des algues vertes. Là, ils ont sorti tout un dossier sur l'ammoniac et la pollution de l'air en Bretagne. Et donc, par exemple, ils font ça. Toutes leurs enquêtes sont publiées à la fois en français et en breton. Et donc, voilà. C'est, à mon avis, à travers cette dynamique-là qu'on arrivera à faire vivre le breton. Il faut absolument le faire vivre partout, en fait, où on peut le faire vivre. Et pas seulement... Puis aussi, être ouvert, faut pas être, à mon avis... un peu très strict sur c'est pas du vrai breton, ils font des fautes, tatatitatata. Enfin, comme on peut entendre aussi pour le français, et malheureusement, c'est un discours qui existe aujourd'hui dans le monde du breton. Je pense au contraire, il faut accueillir toutes les initiatives, et s'il y a des fautes, c'est pas grave. Et si c'est évidemment que c'est pas le même breton que parlait la génération pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, et c'est normal, comme le français, ça évolue. Et donc, faut en profiter, il faut faire vivre cette langue. Une langue, c'est la vie, quoi.
Et justement, pour faire vivre cette langue, il y a des artistes qui font leur travail en breton. Est-ce que tu aurais quelques recommandations à nous donner? Parce que c'est assez peu connu.
Oui, alors déjà, plus dans l'aspect un peu plus traditionnel, il y a quand même une scène musicale autour du Fesnoz. Donc ces fêtes de nuit, on danse les danses traditionnelles bretonnes qui est assez vivante, je trouve. Donc, il ne faut pas hésiter à aller y faire un tour. Ça ne coûte pas cher, en plus, et c'est très sympa. Et là, on aura des artistes qui chantent en breton, et parfois en gallo, et ainsi de suite. Et aussi, là, j'ai un peu réfléchi. Il y a un duo de chanteuses, donc une pianiste et une autre chanteuse en jazz qui chante en breton. Et ça s'appelle Emezi. M-E-M-E-E-Z-I. C'est Emezi. Et donc, ça, c'est chouette. Et voilà, pareil, elles font quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec la musique traditionnelle bretonne. Et sinon, il y a un rappeur qui s'appelle Chris Men, K-R-I-S-M-E-2-N, et qui rappe en breton, qui s'est aussi associé avec quelqu'un qui faisait du beatbox. Ils ont fait des tournées même en Amérique, etc. Et donc c'est très chouette ce qu'ils font, et je vous invite à écouter ça.
Bah, ça donne vraiment envie. Je vais partir de l'émission pour les écouter tout de suite. Et c'est vrai que, comme tu dis, la situation est un peu inquiétante pour le breton. Il n'y a que 207 000 locuteurs du breton. Et pour le gallo, c'est 191 000, donc à peu près pareil, mais encore pire. Et c'est vrai que les personnes qui le parlent, dont c'est la langue maternelle, c'est nos grands-parents. Après, vous ne voyez pas forcément quel âge ont nos grands-parents, mais ils sont assez vieux, quoi. Et finalement, l'avenir de ces langues, c'est plutôt les gens qui, comme toi, vont l'apprendre. Mais pourtant, il y a peu de moyens qui sont alloués à l'enseignement des langues de Bretagne. Et peu au breton et encore moins au gallo. Il y a un budget pour ça dans le Conseil régional de Bretagne. Mais il n'y a que 1 à 2% qui sont alloués au gallo, ce qui est quand même vraiment ridicule, alors que c'est censé être parlé dans toute la Haute-Bretagne. Donc, c'est surtout les associations, comme tu disais, qui permettent en fait, de l'enseigner et de faire vivre la langue. Ça passe aussi par tout un travail de collecte des chants populaires, et tu parlais du fest-noz notamment, des contes populaires. Il y a l'association Dastum, je pense que ça se prononce comme ça, Dastum, je le prononçais mal, tu vois, qui recollecte pas mal, c'est super, ils ont un site et on peut écouter plein de choses. Il y a plein d'autres gens qui sont passionnés par ça. Il y a Jérôme Lucas, par exemple, qui a une chaîne YouTube où il compte des contes en gallo. On va écouter un de ses contes qui lui a été transmis par Léonie Flageol. Et en fait, je pense que vous connaissez la version française, peut-être la version anglaise, donc on va voir si vous reconnaîtrez.
Il y avait une fée, Pauline, c'est nous, un petit gars d'une douzaine d'années qui n'était pas plus haut qu'un puce. Il avait pour nom le petit puce. Dans le temps-là, vous savez bien, il fallait gagner son pain. Les parents nous gardaient pas un rien de faire. Mais le petit puce, lui, il avait bien que jeter du travail, on lui répondait toujours, mais tu veux que je ferais un thé?
Alors?
Je dirais le petit pousset.
Toi aussi. Pareil. Ouais, c'est ça, c'est le petit pousset. Après, en fait, c'est assez différent du petit pousset que nous, on connaît. Ça ressemble plus à la version anglaise Tom Pouce, où en fait, il est vraiment, vraiment minuscule comme un pouce et il se fait avaler par une vache, je crois, en même temps qu'une feuille de salade.
Alors, je ne connaissais pas du tout cette version.
Et voilà, bah, tu pourras aller écouter à la chaîne YouTube de Jérôme Lucas et écouter tout le conte en entier. J'espère qu'on a attisé votre curiosité pour ces langues qui sont un petit peu en danger. Donc, Kenavo, je ne sais pas si je le dis bien, à la Pershun.
Eh bien, merci beaucoup, Azilise et Sophie. C'était vraiment très, très intéressant. Et nous allons maintenant avoir une petite pause musicale avec la chanson Trimartelo de Nolwenn Leroy.
Venez d'un voyage, trimartelo, dio wonk. Tra la 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 la, trimartelo, dio wonk. Venez d'un voyage, venez d'un voyage gay. Venez d'un voyage, venez d'un voyage gay.
Vous êtes bien sur Prune en train d'écouter Langue de Prune. Il est l'heure maintenant de passer à l'étymologie en folie et d'en savoir un peu plus sur une commune de la Loire-Atlantique.
L'étymologie en folie.
Je vais vous parler du nom d'une commune des environs de Nantes, Pontchâteau. Pour ceux qui la connaissent, et même ceux qui ne la connaissent pas, en entendant le nom de cette commune, on aurait tendance à assumer que cette commune a été nommée à la suite de la présence d'un pont et d'un château dans cette zone. Or, ce n'est pas le cas. Révélation. À cet emplacement, au XIe siècle, des vassaux de comtes de Nantes étaient missionnés pour tenir le franchissement du Brivet, qui est sur l'axe reliant Nantes à Vannes et Nantes à Quimper en passant par la Roche-Bernard. Le contrôle que ces barons, qui se passaient après de père en fils, était si essentiel qu'ils finirent par porter le titre de « Dominus de Ponte », qui veut dire « seigneur de pont ». Un château leur était donc nécessaire, mais il n'a jamais été cité pour lui-même dans les chartres de l'époque. Il n'apparaît qu'au travers du nom du lieu. Et donc ces noms au latin sont « Pontis Castris », »,« Pontis Castrum », »,« Ponte Castrum », »,« Ponte Castri » ou « Pontis Castro ». Tous ces noms n'étaient pas la simple description du pont et du château qui étaient là, ou bien de plein d'autres choses. Il convient en vérité de les traduire par « château des seigneurs de pont ». Car au Moyen-Âge, on désignait un château par le nom de son premier seigneur ou par celui de sa famille. Et on peut prendre d'autres exemples, tels que Châteaubriant, qui est « château des comtes de Briant », ou Châtelaudrin ou Château-Giron. Toutes les communes avec le nom « château ». Dans la France, il y a plein d'autres endroits aussi qui ont des ponts et des châteaux. Or, ces lieux ne s'appellent pas Pontchâteau. Il y a un seul Pontchâteau parce qu'il y avait une seule famille de ponts ou du pont, en deux mots. Et là, cette famille s'est éteinte vers le XIIIe siècle. On peut noter qu'il existe la commune, par contre, Pont du Château, dans le Puy du Dôme. Et son nom montre clairement que c'était pour désigner le pont et le château présents à cet endroit. Donc celle-ci, c'est vraiment le coup d'un vrai Pont-Château, mais Pont du Château. Et aujourd'hui, si vous venez à Pont-Château, vous ne vous attendez pas à un château datant du Moyen-Âge. Ce dernier a malheureusement disparu, car avant le XIVe siècle, les châteaux étaient faits en bois, donc ils ne pouvaient pas vraiment tenir sur le temps. Donc la question qui se pose est où était l'emplacement de ce château qui est maintenant perdu? Des hypothèses se font entendre, mais il se peut que le premier château n'était pas là où on le pense.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Asilise va maintenant nous parler des langues régionales aujourd'hui.
On a vu comment la France a traité les langues régionales par le passé, donc on va un peu voir ce qu'il en est aujourd'hui. Déjà, à votre avis, il y a combien de langues régionales en France ?
Je dirais une quinzaine. C'est pas du tout ça, je suis sûre.
Une vingtaine, oui, je dirais.
Et toi, Sophie ?
Je ne sais pas du tout.
Il y en a 75.
Oh mon Dieu.
Ah. Alors, d'après le rapport Cerchi-Glini de 99, et vu qu'il a un nom compliqué, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et ouais, donc 75. Et celles qui sont le plus parlées, c'est le créole, qui est parlé en Outre-mer. Ça représente plus d'un million de personnes. Et là-bas, c'est vrai que le créole est parlé par toutes les générations, même si c'est dans une moindre mesure pour les plus jeunes. La plupart de ces langues régionales, c'est des langues romanes, donc des évolutions du latin vulgaire à partir d'un substrat gaulois, à partir d'une base du gaulois. Au nord, on a les langues d'oïle, comme le gallo, et au sud, on a les langues d'oc. Les langues d'oïle, elles ont plus de sons du gaulois, parce qu'en fait, elles ont été romanisées plus tard. Il y a par exemple plus de sons nasalisés, nasaux. Il y a aussi... quand même des langues régionales qui n'ont rien à voir, qui font partie d'autres familles linguistiques, donc, comme le breton ou le basque, qui fait partie d'absolument aucune famille. C'est un isolat linguistique, il est relié à personne. Par contre, toutes ces langues, même si elles sont très nombreuses, c'est jamais la langue du pouvoir, c'est jamais la langue de l'administration, la langue légitime. Et c'est des langues qui sont pour la plupart en train de disparaître, parce qu'elles ont très peu de locuteurs, notamment peu de locuteurs natifs et locutrices natives. C'est très rare, surtout pour les patois. Il y a par contre des locuteurs qui sont en train de l'apprendre, comme on en a parlé tout à l'heure avec le breton. Et ça donne parfois des formes un peu différentes de ces langues. Il y a notamment un peu cet effet en Bretagne où le breton est beaucoup appris dans les écoles d'Iwan et ça a créé une forme particulière de breton, le breton d'Iwan. Je ne sais pas si tu peux nous dire un peu, Sophie, à quoi ça ressemble.
C'est du breton, point. Enfin, contrairement à tout ce que les gens pourraient critiquer. C'est un breton qui est très lié à l'école et notamment pour les enfants et les adolescents qui l'apprennent ensuite. Donc souvent, c'est un breton qui va être utilisé essentiellement en classe et malheureusement assez peu en dehors pour les enfants. Ça reste pour souvent les jeunes qui sont dans ces écoles-là, la langue de l'école. Ils aiment bien ça, mais pour ceux dont les familles c'est important et tout ça, mais ils vont peu l'utiliser malgré tout en dehors. Après on dit souvent c'est un peu le breton qui a mauvaise réputation, etc. On fait des fautes, etc. et tout, mais en fait non, c'est un breton qui est utilisé. C'est un breton aussi où certaines fois il y a des petites choses qui évoluent et qui sortent de ces écoles. Comme le français, on voit dans les collèges, le français n'est pas le même, il évolue, il y a des nouveaux mots qui arrivent, des mots qui avaient disparu et qui reviennent, et ainsi de suite. Là c'est pareil. Donc, il y a des fois des petites expressions en verlan qui apparaissent, des petites choses comme ça, qui sont aussi liées au français, mais c'est pas grave. Et c'est chouette, en fait, et c'est trop bien. Voilà.
Ouais, c'est vivant, quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu peur que ces langues régionales ne soient plus vivantes. Il y a quand même quelques politiques pour les sauvegarder. Il y a une charte européenne des langues régionales qui a été rédigée en 92 et qui vise à les protéger, les promouvoir et à favoriser leur emploi dans la vie privée et publique. La France, elle ne l'a pas signée, donc pour nous, ça ne change pas grand-chose. Elle a dit que c'était contraire à sa constitution, parce que l'article 2 dit que la langue de la République est le français. Donc ça veut dire, on reconnaît qu'il y a des langues régionales, mais elles sont inférieures au français, elles sont moins bien. Et on voit bien qu'on est toujours là-dedans, même si on n'est plus en 92. Blanquer, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, il a dit il y a peu, alors c'était à propos de l'écriture inclusive, il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république. Donc on voit qu'il y a un peu cet amalgame entre la langue et la république, comme si ça devait forcément superposer, et comme si le fait d'avoir des langues régionales, ça allait mener au communautarisme, l'ennemi de notre époque. Donc ça fait qu'on avance peu sur l'enseignement de ces langues régionales. C'est possible de les apprendre à la fac, mais à Nantes, on peut apprendre ni le breton ni le gallo. Enfin, il n'y a pas de licence. Il y a des options au bac, mais ça reste très, très faible, les jeunes qui y participent. Et avant ça, au primaire, au collège, il y a un peu deux formes d'enseignement. Il y a l'enseignement bilingue, où il y a du coup la moitié de la classe dans la langue régionale, la moitié de la classe en français. Donc ça existe dans l'enseignement public. C'est un petit peu en train de se développer en Loire-Atlantique pour le breton. Et à côté, il y a aussi l'enseignement immersif, où tout est dans la langue régionale, du coup. Ça existe depuis un moment dans le privé, avec les écoles d'Iwan pour le breton, par exemple. Et il y a eu une loi, la loi Molac, qui a été votée au printemps dernier, pour que ça puisse exister aussi dans le public. Elle a été votée, mais rejetée après par le Conseil d'État. Enfin, elle a été déclarée anticonstitutionnelle à cause de ce fameux article 2. Donc, ce qui fait que pour l'instant, l'enseignement immersif n'est pas possible dans le public. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, entre ces deux formes d'enseignement et sur le fait que c'est pour l'instant que ça n'existe que dans le privé.
Je pense qu'il faudrait réussir aussi à le mettre dans le public. C'est très intéressant d'apprendre les langues régionales. Il ne faut pas du tout les rejeter et pas enfermer ça juste dans le privé parce que tout le monde n'a pas accès à aller dans une école privée.
C'est ça, ça crée une division sociale un peu et une division de classe sociale même, on peut dire. Si le seul moyen d'apprendre le breton, c'est d'aller dans des écoles privées, du coup, ça va être un peu tout le temps les mêmes catégories de personnes qui vont apprendre le breton. Et du coup, forcément, ça va être un frein au maintien de la langue. Et ça, c'est pareil pour à peu près toutes les langues, je pense.
Après, je suis carrément d'accord. Après, Diwan, souvent, on ne le sait pas. C'est associatif, c'est laïque et c'est gratuit. Ah. Voilà. Donc, des fois, c'est... Enfin, il y a aussi... Ça n'empêche pas qu'il y a des éléments de classe sociale qui sont en jeu malgré tout. Mais des fois, je trouve ça chouette de le rappeler aussi. Et aussi, ce qu'il faut dire... Quand on apprend le breton, on s'en rend compte encore plus, mais le français est présent juste partout et c'est comme ça, c'est forcément on parle français, enfin ma langue reste le français, c'est la langue ma langue maternelle. Et du coup, l'enseignement bilingue, je trouve ça très chouette, mais le breton est déjà tellement peu présent que du coup si en plus on peut pas faire de l'immersif, ça très peu de poids sur la maîtrise ensuite de la langue pour apprendre dans sa subtilité, dans ses nuances, pour apprendre à penser différemment. Moi, ce que je trouve ça aussi dans les langues, c'est le fait de penser différemment parce que la grammaire change, donc on pense différemment. Donc ouais, moi, pour moi, c'est l'immersif qui est hyper important aujourd'hui parce que voilà, le français est vraiment présent partout. Mais ça, il faudrait vraiment aussi une force politique, enfin que donner massivement, entre guillemets, l'envie aux gens d'apprendre la langue et de lutter pour cette langue. Pour l'instant, malgré tout, malheureusement, dans la population, même en Bretagne, bah, il n'y a pas cette envie massive, il n'y a pas de lutter pour une langue, de l'apprendre, de la transmettre. Et ça, il faut arriver vraiment politiquement à mobiliser et créer une vraie lutte, un vrai rapport de force politique pour qu'on ait de l'immersif dans le public.
C'est vrai que pour l'instant, les familles qui choisissent de scolariser leurs enfants, que ce soit en immersif ou en bilingue, enfin qu'ils apprennent le breton ou une autre langue régionale, c'est quand même très souvent, il y a quelques passionnés, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont l'utiliser en fait comme une stratégie un peu scolaire. Par exemple, moi je connais plus le public dans les écoles où il y a des classes bilingues. En fait, on va voir que ça crée vraiment justement une division sociale en fait. Les familles les plus favorisées, elles vont mettre leurs enfants dans ces classes-là pour qu'ils ne soient pas mélangés au bas peuple, pas mélangés aux enfants d'immigrés aussi. Et c'est dommage, je trouve, que ça soit détourné en fait, par ce biais-là. Et parfois, les enfants ne sont pas spécialement intéressés par le fait d'apprendre le breton. Ils ne le parlent pas à la maison, ils n'en parlent jamais entre eux. J'ai même un enfant, une fois, dans une classe bilingue, qui m'a dit, il avait 10 ans, qu'un jour, il est rentré dans un magasin, à Quimper, qu'il est rentré, il a parlé breton, il était super fier de lui. Il s'est rendu compte que personne ne comprenait. Je me suis dit, on lui a un peu menti, cet enfant. On lui a fait croire, tu vas apprendre le breton, tu vas pouvoir parler avec des bretons.
Oh, c'est triste.
Et tu parlais de Diwan, qui est du coup gratuit, laïque, associatif. C'est vrai que, comme tu le dis, vu qu'il n'y a pas beaucoup de moyens publics qui sont mis pour l'enseignement, c'est les associations qui jouent ce rôle. Et il y a un peu un milieu militant quand même du breton, donc, qui gère un peu ces associations-là et qui essaie de revendiquer aussi qu'il y ait l'immersif dans le public, etc. Mais c'est vrai que le militantisme pour le breton a l'air d'être assez contrasté. En fait, on peut retrouver des gens de tous bords, des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche. Je ne sais pas si vous avez eu des rencontres comme ça avec des...
Oui, non, j'allais juste dire, pas vraiment, vas-y.
non, mais oui, bien sûr, bah, comme dans plein de mouvements, de réseaux, il y a différentes bords politiques. Après, il y a peut-être aussi, des fois, je pense, petit souci dans le milieu bretonnant qui lutte pour la langue bretonne, c'est de trop dépolitiser la question, de dire revendiquer le breton, ce n'est pas politique. Et en fait, si c'est carrément politique de revendiquer une langue régionale et tout, c'est lié à notre environnement, à notre territoire, c'est lié à notre territoire, je ne parle pas d'une frontière dans un truc de terroir, hein, de l'environnement, je parle dans un but, un truc un peu plus écologique, mais c'est très politique. Et du coup, voilà, vouloir absolument dépolitiser la question, ça permet à des personnes qui ne sont clairement pas de notre côté de s'y infiltrer, malheureusement. Après, c'est à nous de mettre sur le débat, de mettre sur la table le débat politique, de dire qu'est-ce qu'on veut. Moi, si la Bretagne, au bout d'un moment, tout le monde parle breton, mais que tout le monde est d'extrême droite et qu'on interdit et qu'on ferme une frontière et qu'on interdit d'entrer aux immigrés, non, moi, je préfère qu'on parle français et qu'on soit. Enfin, voilà, pour moi, le breton, c'est apprendre des langues, c'est un signe d'ouverture et donc ça permet de justement, on accueille tout le monde. Et c'est ce que voilà, c'est ce que Diwan aussi malgré tout essaye de faire à une moindre échelle.
C'est vrai que ça sert trop souvent de prétexte à l'extrême droite pour dire nous on préserve l'identité culturelle de la France. Mais bon, heureusement il y a pas que. Et pour sauvegarder ces langues, il y a aussi pas mal de, ça n'a rien à voir, hein, mais il y a pas mal de médias qui existent et ça peut être assez sympa quand justement on connaît personne qui parle la langue régionale et qu'on a envie de l'entendre au moins. Dans le coin à Nantes, on a Radio Naoned, qui est en breton. Il y a aussi Plume FM, qui a des émissions en gallo, Donc c'est assez sympa, des émissions de musique et des émissions sur la Bretagne. Parce que c'est vrai que je ne veux pas mettre la pression, mais si ces langues ne sont pas transmises, elles vont disparaître. Il y en a 29 qui sont en voie de disparition en France, selon l'UNESCO. Et c'est vrai que là, le gouvernement aurait clairement un rôle à jouer, parce que par exemple, le catalan, il n'est pas considéré comme en voie de disparition, parce qu'il n'est quasiment pas parlé en France, mais par contre en Espagne, beaucoup plus. Et là, il y a vraiment toute une politique où on encourage à parler dans cette langue-là, où les profs en Catalogne sont obligés de passer un diplôme hyper dur pour pouvoir enseigner, même si ma sœur, elle est prof d'anglais, elle a dû passer ce diplôme-là, alors qu'elle ne parle jamais catalan, puisqu'elle est prof d'anglais. Et c'est un sujet dont on parle, dont les politiques parlent peu, et dont on parle peu aussi sur la scène médiatique. Donc, ce qui fait que peu de gens s'y intéressent. Alors que, imaginez un monde où tout le monde parle français, c'est un peu inquiétant, quoi. Tout le monde parlerait la langue des dominants. Donc voilà.
Eh ben, merci beaucoup Azilise et Sophie, parce que là c'était vraiment très intéressant pour la condition des langues régionales aujourd'hui. Et je vous propose une nouvelle petite pause avec la chanson « Ay Mama », une chanson écrite en occitan racontant la mort de Rémi Fraisse lors de la résistance de la ZAD de Sivens contre le projet de barrage.
Y'a un riu qui raja, ay mama, si sabies, kuma lu riu fazie en vege, ay mama, si sabies, kuma li jensi su re campa, voulez tout crumpa, la terre est lisambrée, voulez tout crumpa, la terre est lisambrée, ay mama, si sabies, kuma lu riu fazie en vege, ay mama, si sabies, kuma li jensi su re campa, voulez tout crumpa, dedi lu buscaji, voulez tout
Vous êtes toujours sur Prune, dans l'émission Langue de Prune. Notre dernière chronique, À qui la faute, va parler de ces fautes de français qui n'en sont peut-être pas.
À qui la faute ?
On va parler de quelques formes grammaticales dont on dit « mais c'est pas du français ça !» Et c'est normal parce que c'est pas du français. On va commencer par l'occitan qu'on a entendu dans la chanson juste avant. En occitan, la négation, on la fait juste avec le mot « pas » ou « passe ». Je ne sais pas trop comment le prononcer, mais c'est l'équivalent de notre « pas » à nous en français. Et c'est assez drôle parce que c'est un truc qui est tout à fait accepté en occitan et pas du tout en français. Où on va nous dire « mais tu ne parles pas français, en français, c'est la double négation, on met le « ne » et le « pas ». Alors que c'est complètement faux, en fait, c'est un truc qu'on fait quasiment jamais, sauf quand on insiste ou qu'on s'énerve. « Je ne veux pas une autre part de gâteau » ou qu'on fait à l'écrit. Donc, je pense que c'est parce que l'occitan et les langues régionales, ça vit surtout à l'oral. Et du coup, on va accepter des choses en occitan et pas en français. Il y a autre chose qui m'a marquée parce que j'ai de la famille qui vient de La Réunion. c'est qu'en créole réunionnais, il y a un seul déterminant possessif. Ça va être le même au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel. Donc, on va dire « mon », que ce soit pour remplacer en fait en français le « mon », « ma », « mais ». Et au début, moi, j'avais l'impression que c'était une faute d'accord et je ne comprenais pas, mais c'est juste une spécificité de la grammaire. Donc, ça va donner, par exemple, « mon savate ». Savate, c'est les chaussures. Donc, pour dire, on aurait dit « nous, mes savates ». Et plus proche de nous, je ne sais pas si vous avez entendu quand vous étiez enfant, je vais au marché, je vais chez Ginette, je m'en vas. Moi, quand j'étais petite, je me disais, c'est une faute de conjugaison. J'ai appris je vais, tu vas, il, elle, on va. Et en fait, ce n'est pas une faute de conjugaison du français. Ce n'est pas du français, c'est du gallo. En gallo, ça se dit comme ça. Comme quoi, il y en a sûrement un peu plus que ce qu'on pensait. Donc, ça nous amène un peu à penser, je pense, qu'avant de dire que quelqu'un ne sait pas parler, peut-être qu'on pourrait se demander si ce n'est pas nous qui n'en connaissons pas assez pour la comprendre.
Langue de prune.
Donc, comme nous pouvons le constater, les langues régionales sont très riches et nous ne devons pas les perdre. Les variétés des langues régionales, que ce soit le créole, le breton, l'occitan et j'en passe, doivent être vues comme une richesse pour notre pays et notre culture. Nous ne devons pas les perdre et en aucun cas les considérer comme inférieures seulement parce que ce n'est pas la langue française. Faisons en sorte d'avoir accès plus facilement à l'apprentissage de ces langues. Et je suis sûr que vos grands-parents ou les personnes âgées que vous pouvez fréquenter utilisent encore un peu cette langue ou du moins partiellement. N'est-ce pas là une partie de leur charme ? Et il est vrai que les langues évoluent constamment. Nous ne devons pas croire que notre langue actuelle était directement comme elle l'est maintenant et qu'elle le restera à jamais. Ça serait complètement idiot. Mais des langues se créent tandis que d'autres meurent. Et là, ça c'est triste. Mais nous pouvons réussir à ne pas oublier ces langues et les garder dans notre histoire actuelle et essayer les peut-être futures. Évitons qu'elles ne deviennent des langues mortes comme le latin, par exemple. Essayons de sauver ce côté unique de la variété de langues et d'en apprendre quelque chose. Qui sait, peut-être même que cela fera évoluer la langue française. Mais essayons quand même d'éviter de garder le croissant au chocolat. Nous pouvons tout de même pas... Nous devons
pas
mettre
ça.
Des limites, j'ai envie de dire. Voilà.
Oui, pas ça.
Et bon. Je vous invite à nous retrouver pour la prochaine émission de Langue de Prune le mardi 28 décembre, de midi à 13h sur Prune. Et vous pourrez aussi retrouver les émissions disponibles en podcast ainsi que les émissions précédentes sur le site de Prune, peu de temps après sa diffusion. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous vous disons au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À plus dans le bus,
à plus tard dans
à
le
bientôt
car.
Dans le métro,
à mardi dans le
à
taxi,
plus tard,
à très
dans
vite
le car.
Dans le cockpit.